Nova. Dans le genre de
Caroline Mécari.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône. Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Caroline Mécari, est-ce que vous vous trouvez féminine ?
Bah oui, bien sûr, hein. Je suis une femme, voilà, tout simplement.
Bonsoir et bienvenue dans ce 45e épisode de Dans le genre. Je suis ravie ce soir de recevoir Caroline Mécari. Caroline Mécari est avocate au barreau de Paris. Elle est spécialisée dans le droit de la famille et plus particulièrement dans la lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Cela fait près de 20 ans que Caroline Mécari se bat. Il faut préciser que c'est une des seules à faire ce qu'elle fait, à s'afficher ainsi dans un milieu, la justice, le barreau, qui reste très sexiste. Son premier dossier LGBT, comme on dit, remonte à 1996. Elle va nous le re-raconter ce soir. C'est elle aussi qui avait défendu Noël Mamère lors du mariage de Bègle en 2004. Souvenez-vous, c'était un mariage entre deux hommes, célébré donc par Noël Mamère qui était le maire de Bègle, alors que le mariage homosexuel restait à l'époque illégal. Et cet événement avait de fait participé à l'évolution des mentalités, de la société et à l'ouverture du mariage pour tous en 2013. Tous ces combats, Caroline Mécari les a racontés dans « L'amour et la loi », un livre sorti l'an passé que je vous engage à lire. On l'écoute en lire un extrait qui précise bien la position qui est la sienne.
On me qualifie régulièrement de militante de la cause homosexuelle. Ceux qui me connaissent savent que la seule cause que je défends, si l'on veut à toute force m'en trouver une, est celle du droit contre l'arbitraire et l'injustice. Celle de la défense au bénéfice du citoyen. Je l'ai compris depuis longtemps, en me présentant comme militante, on veut décrédibiliser mon propos, puisqu'un militant n'est jamais tenu pour objectif. Pourtant, je fais la même chose qu'un pénaliste de renom, qui défend ceux que l'on appelle les criminels. Tous les deux, nous utilisons nos vies, la somme de nos savoirs. Tous les deux, nous haïssons l'arbitraire et avons la passion de défendre jusqu'au bout ceux qui nous font confiance. Il ne vient à l'esprit de personne de dire d'un ténor des assises qu'il est un militant de la cause des criminels. Au contraire, il force l'admiration et l'éloge. On loue son talent, à l'occasion on le surnomme acquittator, tant il a obtenu d'acquittement. Pendant ce temps, les étiquettes pleuvent sur ma tête. Avocate militante, avocate homologuée, avocate de combat. Cela témoigne certes d'une forme de reconnaissance, mais tout autant de condescendance. Serait-ce parce que je ne porte pas de barbe ? Me réserve-t-on ce qualificatif de militante parce qu'une partie des dossiers que je traite concerne la famille et l'homosexualité ? Est-ce parce que les justiciables que je défends n'ont pas transgressé le contrat social comme le font les criminels, mais demandent l'application d'un principe fondateur de la République, l'égalité ? Sans doute. Et aussi pour quelques autres raisons que j'ignore. Quoi qu'il en soit, et dans le même temps, si je représente pour beaucoup de lesbiennes et de gays et d'hétérosexuels la cause des droits des homosexuels, c'est parce qu'aucune personnalité politique n'incarne la défense de leurs droits comme je le fais, et que j'ai été la première avocate à ne pas craindre d'exercer mon métier pour défendre, à leur demande, ces citoyens trop souvent marginalisés.
Depuis 20 ans donc, Caroline Mécari a observé la société française, ses évolutions, ses reculs aussi, le déplacement des discriminations. Beaucoup des dossiers qu'elle défend aujourd'hui concernent des questions qui ont trait à la filiation, aux conséquences de l'absence de la légalisation de la PMA pour toutes ou de la GPA. Quel droit la loi accorde-t-elle aujourd'hui à la mère sociale quand un couple de lesbiennes se sépare et a des enfants ? Comment faire reconnaître des enfants nés de GPA ? Si ces questions vous intéressent, elle sort aujourd'hui un que sais-je très complet au PUF sur la question. Il s'appelle tout simplement PMA GPA. Voilà, on va parler de tout ça dans cette émission, mais on va commencer par son parcours. Ce soir, je vous invite à passer une heure dans le genre de Caroline Mécari.
Nova.
Dans le genre. L'enfance. J'ai grandi dans une famille, variée. C'est-à-dire que mon père était libanais et ma mère était française. Donc ce sont deux personnes qu'a priori, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui se sont vraiment rencontrées par le plus grand des hasards à Paris et qui se sont aimées et qui ont souhaité donc avoir une famille. Et je suis la première à les avoir rendus parents puisque je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants.
Donc vous avez grandi à Paris ?
J'ai grandi à Paris.
Et alors, si on parle un peu en termes de normes de genre, hein, ce qui nous occupe un peu dans cette émission, votre père, vous diriez que c'était quel type d'homme par rapport aux normes du masculin ? Il se positionnait comment ?
Mon père, c'était un... Ouais, c'était un homme de la Méditerranée, c'est-à-dire un Libanais qui avait une conscience, pour qui les femmes avaient une place et une seule, à la maison, mariées, en soutien du mari. Voilà, ça c'était sa vision du monde, que évidemment très tôt je n'ai pas partagé en fait, mais j'ai été prise en même temps dans cette espèce de loyauté à l'égard de parents qu'on aime et au fond des désirs en soi qui sont radicalement différents de ce qui était entre guillemets prévu pour moi. Et je vais dire que la mort de mon père quand j'ai eu 13 ans a été à la fois une catastrophe et un chaos absolu et en même temps je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si cet événement n'était pas survenu dans ma vie.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que, au fond, cette mort a libéré ce que je pouvais, ce que j'étais, ce que je ne pouvais manifester. Et ça a été à la fois très difficile et en même temps, j'ai pu faire ce que je voulais, choisir la vie que j'avais décidé de vivre, aussi bien sur le plan personnel, sentimental, que sur le plan, entre guillemets, professionnel. C'est-à-dire, voilà, j'avais décidé que je serais avocate, il n'était pas question pour moi que je me marie avec X, Y, Z. De toute façon, ce n'était pas dans mon schéma, on va dire.
Ouais, ça vous a permis aussi, d'une façon, de vous défaire de schémas assez patriarcaux, on peut imaginer, enfin, pour aller vite par rapport à ce que vous disiez de votre père, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ça vous a permis ça aussi ?
Je crois que se défaire des schémas dans lesquels on a grandi, ça prend beaucoup de temps. Mais en effet, cet événement tragique a ouvert, a permis que des portes pour moi s'ouvrent, ou en tout cas m'a permis de les ouvrir. Et en effet, j'allais dire, de mener la vie que je voulais. La conscience d'être une fille dans ma famille, c'est quelque chose que j'ai eu très jeune. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai eu dès que mon premier frère est né. Et c'est ce moment-là, en fait, qui fait prendre conscience de ce que vous êtes une fille ou vous êtes un garçon. Et dans ma famille, ça ne voulait pas dire la même chose. C'est-à-dire que être une fille, ça voulait dire aider la mère, ça voulait dire toutes ces choses qu'on attribue aux femmes, y compris parfois aux petites filles. Et être un garçon, ça voulait dire pouvoir faire absolument tout ce que l'on voulait. C'est donc cette expérience d'une différence de traitement qui, très tôt, a chez moi éveillé ce désir de combattre ce que je considérais, ce que je considère toujours comme étant une injustice.
Oui, donc c'est presque à l'origine de votre...
En tout cas, je pense que ça, une des raisons de mon métier, c'est bien ce désir et cette espèce de transformation, de ne pas subir, et donc œuvrer pour quelque chose d'autre, en tout cas quelque chose de différent, lutter contre les injustices, tout simplement.
Alors, vous me parliez de votre père, vous disiez que c'était un homme méditerranéen, assez viril. Votre mère, c'était quel type de femme ?
Ma mère allait parfaitement avec mon père, puisqu'en fait, c'était une femme qui venait de la petite bourgeoisie de province, élevée chez les sœurs, élevée pour être une épouse. Et donc, ma mère a été une épouse pour mon père. Et en même temps, ma mère a été extrêmement fantasque et extrêmement fantaisiste. Elle adorait la peinture, elle peignait, elle passait son temps à peindre. Et avec mon père, elle a trouvé ce lieu particulier qu'était la peinture, qui était leur lieu, dont tous les enfants étaient exclus. Au fond, nous étions un petit peu, tous les cinq, un petit peu comme des objets autour de ce couple parental qui avait une espèce d'unité autour de la peinture.
Alors on écoute un premier titre que vous avez choisi, Caroline Mécari, pour nous c'est Barbara, Nantes. Voilà, on écoute ça.
Il a plu sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait est en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond s'est disparu. Voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu 4 hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Tu la connais l'histoire, il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait, avant de mourir, se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, homme qui longe la mer. Couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose. Je l'ai couché dessous les roses. Mon père.
Voilà, c'était Barbara, Nantes, sur Radio Nova. On est toujours avec l'avocate Caroline Mécari. Caroline, quel type d'enfant étiez-vous ?
Bah, j'étais une enfant responsable, en fait. J'ai toujours été responsable, et cette forme de responsabilité est quelque chose que j'ai encore davantage endossé lorsque mon père est mort. Du coup, je peux être hyper chiante, en fait. Je suis pas quelqu'un de drôle, je suis quelqu'un de rigoureux, je suis quelqu'un de sérieux. Mais ça m'a tenue aussi, le fait de devoir être responsable. C'est-à-dire que, au fond, on pourrait presque dire, d'une certaine manière, que le père qui meurt est remplacé par une espèce comme ça de responsabilité qui était déjà là avant et qui permet de tenir.
Et par rapport à la féminité, aux normes du féminin, vous vous positionniez comment ? Vous disiez que vous aviez pris assez tôt conscience qu'il y avait une différence de traitement dans votre famille entre être une fille et être un garçon. Après, devenir une jeune fille, pour vous, ça a été comment ?
Ce qui a été compliqué, en fait, c'est que dès que j'ai eu à peu près 5-6 ans, du jour au lendemain, j'ai cessé de vouloir m'habiller en fille. Je voulais vraiment être un garçon. J'étais un garçon manqué, en fait, à partir de cet âge-là, parce que j'avais l'impression qu'être un garçon, bah, c'était plus facile, on avait plus de liberté, et que donc c'était évidemment une place enviable. Et ça, c'est compliqué, évidemment, à l'adolescence, parce que il y a des transformations physiologiques qui se font, mais en même temps, je ne voulais pas être comme ma mère, qui était, elle, hyper féminine. Enfin, en tout cas, si on prend les références de ce qu'est le féminin, elle portait les atours de ce qui définit souvent les femmes, c'est-à-dire à la fois des cheveux longs, un maquillage, des robes, des décolletés, etc. Et donc, j'ai trouvé mon chemin entre cette masculinité du garçon manqué et l'hyper féminin. J'allais dire, j'ai trouvé ma propre voie, qui était au fond une espèce d'androgynie.
Vous portiez les cheveux courts.
On peut dire ça. Oui, j'ai porté les cheveux courts vraiment.
Depuis l'enfance ou
Non, pas depuis l'enfance. J'ai commencé à porter les cheveux courts à la fois quand j'étais petite, vers l'âge de 6-7 ans. Après, à un moment donné, à l'adolescence, j'ai eu les cheveux beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai eu les cheveux courts quasiment tout le temps. Il n'y a pas que les cheveux. Il y a la façon dont on s'habille. Il y a est-ce qu'on met du maquillage ou pas. Je ne mettais pas de maquillage. C'est quelque chose par exemple, le rouge à lèvres que je porte, c'est quelque chose que j'ai commencé à porter quand j'avais 27 ans. Donc, vous voyez, j'ai mis du temps à pouvoir utiliser
ces codes-là.
Ces codes-là, et à jouer avec ces codes-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on comprend que tout ça, c'est du jeu.
Ouais.
Et donc, on joue avec pour se faire plaisir. Et que...
Si on en
parce
a
qu'on
envie
a pas,
ou pas.
Si on en a envie ou pas. Et parce qu'il n'y a, pas une seule manière d'être une femme. Il y a mille et une manières d'être une femme. Et j'adore aujourd'hui la société dans laquelle on est, où il y a une possibilité d'être dans une très très grande diversité.
Et la découverte de votre sexualité, de l'homosexualité, est-ce que ça a été quelque chose qui a été compliqué pour vous ? Pas du tout
Moi, j'ai pas le sentiment que ça a été compliqué. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, mais pour moi, ça n'était pas compliqué. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est que lorsque ma mère un jour me dit, je viens de faire un rêve où tu es avec telle personne qui était ma compagne de l'époque, et ce rêve pour elle était, enfin, renvoyé à l'homosexualité. Elle me dit, mais j'ai rêvé ça. Est-ce que c'est vrai? Mais je lui dis, bah oui, c'est vrai. Et là, ma mère me dit, mais il faut absolument que j'aille prier pour que tu changes. En fait, c'est ça que je trouve le plus rigolo. Finalement, c'est le désir, mais plutôt bienveillant de ma mère, que je sois dans la norme. Alors que pour moi, ça n'était pas un problème et que j'ai le sentiment de ne jamais en avoir subi véritablement des conséquences graves. Enfin, pour moi, c'est une évidence, en fait. C'est-à-dire, je suis ce que je suis. Voilà. Si je devais faire une réponse, c'est que je suis ce que je suis. Et que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je suis comme ça. Si ça ne vous plaît pas, bah, écoutez, allez voir ailleurs, changez de trottoir, faites ce que vous voulez.
Donc, l'avez assumé tout de suite, en fait.
Oui, absolument. Oui, absolument.
On va écouter encore un petit peu de musique. Allez, Serge Gainsbourg, le poinçonneur des lilas sur Nova, un choix de notre invité Caroline Mécarès.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Dans le genre de... Dans le genre
dans
de...
Le genre.
Caroline Mécari.
Caroline, à l'adolescence, est-ce que vous aviez des modèles identificatoires? Est-ce qu'il y avait des modèles de masculinité ou de féminité qui vous plaisaient? Vous me disiez que vous étiez dans une androgynie. Est-ce qu'il y avait des modèles dans le cinéma, dans la musique? Je ne sais pas.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu de modèles. C'est d'ailleurs même peut-être quelque chose qui m'a manqué. Je ne voyais pas qui pouvait me servir de modèle, entre guillemets. La seule personne à laquelle, entre guillemets, j'aspirais d'être un peu comme elle, c'était Gisèle Halimi, c'est-à-dire cette figure d'avocate, de grande avocate, qui défend une cause, la cause des femmes, parce que je me projetais dans cette, dans cette profession, et que c'était la seule femme à avoir, comment dire, une visibilité, voilà. Mais pour le reste, non, je n'avais pas de modèle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je cherchais des modèles. Je pense que je ne réfléchissais pas comme ça, en fait. J'avais un objectif qui était vraiment de faire ce métier et j'ai absolument concentré toute mon énergie pour arriver à faire ces études-là, puisque c'est des études que j'ai fait en travaillant. J'étais surveillante dans les collèges et dans des lycées, donc pendant tout ce temps, ce n'était pas si simple que ça. Mais comme j'étais tenue par cet objectif, je suis allée jusqu'au bout, en fait, de ça. Je ne suis pas une femme qui cherche des modèles, en fait. Je n'ai pas... Ce n'est que maintenant que je me rends compte à la fois du chemin parcouru et que peut-être que moi, je suis devenue, entre guillemets, un modèle, bien que je n'aime pas ce terme-là. Et tant mieux si ça peut aider ou ça peut accompagner des jeunes femmes et bien d'autres personnes. Mais je ne m'inscris pas, en fait, dans une logique de référence de ce point de vue-là.
Dans le genre de
Caroline Mécari.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre
de femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Musclé. Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée. Dominatrice.
Viril. Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours dans le genre de l'avocate Caroline Mécari, qui est spécialiste du droit de la famille, qui se bat depuis des années contre les discriminations subies selon les orientations sexuelles, pour construire des jurisprudences aussi en matière de droit homosexuel. On continue cette émission en musique avec un titre de sa sélection, et c'est Anta Umri de Oum Kalsoum.
قبل ما
Dans le genre de
Caroline Mécari.
Alors Caroline, on vient d'écouter Oum Kalsoum, c'est une artiste qui vous tient à cœur ?
Oui, j'aime beaucoup Oum Kalsoum. Elle a, elle a une voix absolument extraordinaire et une capacité, par sa voix et la musique qui l'accompagne, à capter l'attention pendant des minutes et des minutes de manière absolument incroyable, en fait. Et puis, évidemment, ça renvoie à l'Orient de mon père, qui est aussi un Orient que je connais bien, puisque je vais régulièrement au Liban, qui est le pays d'origine de mon père. Et j'ai une vraie tendresse et une affection absolument considérable, en fait, pour cette culture extrêmement riche, extrêmement diverse, que je trouve très, très belle.
Alors, on en est resté, voilà, vous avez fait vos études d'avocat, et puis vous débutez votre carrière en 91, enfin, vous prêtez serment.
Je prête serment en 91.
Vous ouvrez votre cabinet en 93.
Oui.
Puis en 96, il y a l'histoire des sans-papiers de l'église Saint-Bernard à Paris qui éclate. Vous êtes une des avocates présentes sur place.
Oui.
Et vous dites que c'est un événement qui vous a fait mesurer combien l'application de la loi peut être politique.
Oui, parce que les sans-papiers de Saint-Bernard, pour ceux qui s'en souviennent, ont été expulsés sur une décision du Premier ministre, donc de l'église Saint-Bernard, où ils avaient trouvé refuge. Et là, il y a eu un traitement absolument discriminatoire, c'est-à-dire que les étrangers, selon leur couleur de peau, même si ça n'a pas été dit comme ça, ont été emmenés dans un centre de rétention à Vincennes pour être expulsés. Et nous avons découvert le poteau rose de cette espèce de traitement discriminatoire, parce que une femme de couleur, mais était française, avait été embarquée au centre de rétention de Vincennes, alors qu'elle était française et qu'elle était comédienne pour la troupe d'Ariane Mnouchkine. Et donc nous avons plaidé sur l'irrégularité des interpellations qui s'étaient faites non pas sur la base de critères légaux, mais sur la base de la couleur de peau. Et là, bien que nous avions les éléments pour le prouver, bien que Henri Leclerc était présent dans les avocats qui ont plaidé à nos côtés, les juridictions ont refusé d'annuler les contrôles d'identité. Et donc, c'était vraiment une façon de comprendre que la justice, parfois, sans même qu'on ait besoin de lui dire ce qu'elle a à faire, répond aux attentes d'un gouvernement ou des pouvoirs publics. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui avec la manière dont on réprime les gilets jaunes, que ce soit au TGI de Paris ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on attend vraiment de la justice, même si on ne lui dit pas de le faire, des sanctions qui sont parfois extrêmement lourdes pour des faits qui peuvent être tout à fait anodins.
Et puis un jour, en 1996, il y a un homme qui vient vous trouver, il s'appelle Thomas. C'est votre premier dossier LGBT, comme on appelle.
Oui, on peut dire ça,
en fait. Vous pouvez nous raconter un peu.
Thomas, en fait, il vient me voir parce qu'il est marié depuis des années avec une femme. À l'époque, on ne pouvait se marier qu'avec une femme. Et il a lutté pendant toutes ces années contre son homosexualité. Donc, il s'est marié, il a eu 3 enfants. Et puis, à un moment donné où, évidemment, la chape de plomb sur ce qu'il était a explosé, il n'en peut plus. Donc, il est dans un divorce extrêmement difficile. Sa femme ne veut pas qu'il puisse voir les enfants parce qu'il a révélé qu'il était gay. Et donc, je me mets à chercher pour le défendre, essayer de trouver de la jurisprudence. Je m'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose. Mais je fais quand même le travail que j'ai à faire. Et je viens à l'audience avec lui, bien sûr. Sa femme est accompagnée de son avocat. Nous rentrons dans un petit bureau. Et là, dès que nous rentrons dans ce petit bureau où il n'y a pas de public, je vois que la présidente qui va examiner le dossier, elle a une manière de regarder mon client dont je perçois quelque chose qui est de l'ordre du dégoût. Et je comprends que la partie va être vraiment difficile. Je fais mon métier, c'est-à-dire que je plaide pour Thomas. Et la façon dont les choses se sont déroulées à l'audience me révolte proprement. Et à partir de là, je me dis, mais au fond, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et je me dis, mais tiens, il n'y a pas d'ouvrage sur la façon dont le droit français appréhende l'homosexualité. Donc, je vais en faire un. Et puis, je réfléchis à comment. Et puis, je me dis, je vais faire un petit que sais-je, parce que c'est des ouvrages très pédagogiques qui touchent un grand public, etc. Et donc, de fil en aiguille, je rédige ce que sais-je avec Géraud de la Pradelle, qui avait l'avantage d'être un professeur agrégé des facultés, donc c'est-à-dire qu'il a la caution et la légitimité d'un professeur agrégé des facultés. Je fais préfacer le que sais-je par à l'époque Roland Dumas, qui était président du Conseil constitutionnel avant que n'arrivent toutes ces affaires. Et donc voilà, et à partir de là, j'organise un colloque au barreau de Paris, le premier colloque qui
en 97, droit et homosexualité.
Absolument, voilà, présidé par la première bâtonnière du barreau de Paris. Et comme ça, de fil en aiguille, je travaille sur la question enfin sur cette question, la défense des droits des lesbiennes, des gays, des bi et des trans. Et puis je suis amenée à travailler avec la PGL à l'époque, qui monte un groupe de travail. Et de fil en aiguille, j'ai des demandes de justiciables qui ont la particularité d'être lesbiennes ou d'être gays. Et j'essaie de trouver des solutions à leurs demandes juridiques. C'est comme ça que je suis amenée à défendre Carla et Marie-Laure, qui est vraiment le premier couple de lesbiennes que j'ai défendu. Ces deux femmes qui vivaient ensemble, enfin qui vivent d'ailleurs toujours ensemble, et je les salue. Elles ont souhaité avoir des enfants, elles en ont eu 3, par procréation médicalement assistée, et c'est Marie-Laure qui en est la mère. Et elles viennent me voir parce qu'il faut voir comment protéger les 3 enfants, leurs 3 filles. Et donc, on envisage de mettre en place une adoption simple des 3 filles par Carla, qui est donc la compagne de la mère. Et j'obtiens cette adoption simple des 3 enfants par Carla, ce qui était vraiment une première. On est en 2001, donc ça n'avait jamais été fait à ma connaissance, au point d'ailleurs que cette histoire fera la une du Monde en septembre 2001, c'est-à-dire après que la décision d'adoption simple soit devenue définitive, et que donc à partir de ce moment-là, on va avoir régulièrement dans les médias l'attention attirée sur des situations particulières, spécifiques, qui me permettent de montrer que le droit français n'est pas adapté au traitement de la situation des lesbiennes et des gays, et surtout de leur famille. Et c'est comme ça que, petit à petit, je suis intervenue pour le mariage de Bègle, le mariage de ces 2 hommes, par Noël Mamère.
Allez, on écoute un peu de musique, et on écoute l'histoire d'une fille totalement unique en son genre, Lola des Kinks.
C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. La 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 Lola. Well, I'm not the world's most physical guy.
Genre 2.
Caroline Mécari.
Je voulais vous poser une question par rapport au choix que vous avez fait en tant qu'avocate de vous consacrer aux causes auxquelles vous vous consacrez. Est-ce que ça a été quelque chose... Vous êtes une des seules personnes à faire ce que vous faites en France. Est-ce que ça a été un choix qui a été compliqué et qui vous a coûté professionnellement ?
Alors, d'abord, c'est un choix dont je n'ai pas eu conscience. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours suivi ce que je désirais faire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pour moi, c'était...
Il n'y avait pas de calcul, quoi.
Il n'y a aucun calcul. Il n'y a jamais eu aucun calcul. Et en fait, tout ce que je fais, c'est à partir de rencontres. Là, il se trouve que j'ai rencontré Thomas. Et que cet homme, par sa situation que j'ai trouvée absolument... qui m'a révoltée, m'a donné envie de faire quelque chose. J'en ai fait quelque chose. Et donc... Peut-être que ça m'a coûté des choses, je ne m'en rends absolument pas compte. En revanche, ce que ça m'apporte, c'est que ça donne vraiment du sens, je trouve que ça donne un sens considérable au métier que je fais, à la manière dont je l'exerce. Et pour moi, il n'y a pas de plus belle chose que lorsque j'appelle un couple de femmes pour qui j'ai obtenu l'adoption ou un couple d'hommes pour qui j'ai obtenu la transcription de l'acte de naissance, c'est vraiment de les avoir au bout du fil et d'entendre leur émotion qui m'émeut vraiment. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de plus belle récompense que ça, en fait. Obtenir quelque chose de juste pour les personnes que je défends. J'ai la défense chevillée au corps. J'ai vraiment la détestation de l'injustice et de l'arbitraire. Donc peut-être que ça m'a coûté je ne sais quoi, mais au fond, ça m'est totalement égal. Ce qui compte, c'est ce que je fais et comment je me rends compte aujourd'hui combien ça peut bénéficier à de très nombreuses personnes. Voilà. Mais je n'ai aucun plan de carrière, je n'en ai jamais eu aucun et je continue.
Vous êtes avocate au barreau de Paris. Le barreau, c'est comment comme milieu en termes de normes de genre ? C'est un milieu qui est machiste ?
Alors, le barreau est effectivement un milieu, je dirais sexiste. Les sociétés sont sexistes. Et donc, il n'y a pas de raison que le barreau soit différent de la société. Et donc, en effet, il y a une espèce de hiérarchie implicite qui existe entre les avocats hommes et les avocates femmes, alors qu'il y a de... Mais vraiment, les consoeurs sont absolument formidables, parce que d'abord, le plus souvent, elles exercent... Elles ont deux métiers en un, c'est-à-dire elles s'occupent souvent de la maison, mais en même temps du cabinet. Donc, elles sont absolument remarquables. Mais c'est en train de changer. C'est-à-dire que le barreau est obligé d'évoluer avec les sociétés. Évidemment, ça ne se fait pas sans résistance. Il y a de la résistance partout, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la résistance qu'il ne faut pas continuer pour que les avocates et les avocats soient vraiment à égalité dans la perception que l'on peut avoir d'eux, en fait.
Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez sur ces dossiers-là. Il y a eu évidemment la légalisation du mariage pour tous en 2013. Aujourd'hui, avec le recul et l'expérience qui est la vôtre, qu'est-ce qui a changé en termes de discrimination ? Est-ce que les discriminations se sont déplacées ? Quelles sont-elles ? C'est quoi vos combats aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, d'abord, il y a une évolution, même si on a du mal à l'apercevoir, qui est considérable entre les années 90 et les années que nous sommes en train de vivre. D'abord, il y a une égalité en droit dans à peu près tous les domaines, que ce soit le mariage, que ce soit l'adoption. Maintenant, tout n'est pas parfait. C'est-à-dire que je parle toujours sur le plan juridique. Il reste encore des inégalités, comme évidemment la question de l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, la situation est la suivante. Un couple de femmes a recours à une PMA à l'étranger. L'une d'elles tombe enceinte. Elles reviennent en France. L'accouchement va avoir lieu en France. Et pour que la compagne de la mère puisse adopter l'enfant, il va falloir qu'elle se marie et il va falloir mettre en place une procédure d'adoption. Donc il n'y a pas d'effet automatique entre la PMA et l'établissement du lien de filiation, comme cela existe pour les couples hétérosexuels. Donc là, on a une discrimination contre laquelle on est en train de se battre, dont on espère qu'elle va évoluer, en tout cas qu'elle va être... j'allais dire annihilé durant l'année 2019, en espérant que le gouvernement actuel et surtout le Parlement va ouvrir la PMA à tous les couples et surtout va mettre en place un système d'établissement du lien de filiation dès la naissance de l'enfant, parce que c'est l'enfant en fait qui pâtit de cette absence de lien de filiation dès son origine. Donc il faut trouver une solution pour protéger l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un grand champ. Après, au-delà, il y a la question... Mais alors là, ça ne concerne pas que les homosexuels, ça concerne aussi les hétérosexuels. Il y a la question de savoir si on légalise la gestation pour autrui en France, selon nos principes à nous, nos valeurs et nos critères.
Alors je signale à nos auditeurs que vous publiez d'ailleurs le 9 mai un que sais-je consacré à ces questions, PMA, GPA, qui fait un peu le point sur où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il faudrait modifier un petit peu pour améliorer la situation des personnes qui souhaitent y recourir et puis des enfants.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'ouvrage aujourd'hui, à part celui-là, qui vient de sortir, donc sur la PMA et la GPA, qui soit un ouvrage à la fois clair, qui est à jour de la jurisprudence, qui permette d'expliquer qu'est-ce que c'est que la PMA, comment ça se passe, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place, et puis par ailleurs, qu'est-ce que c'est que la GPA, comment ça se passe aujourd'hui en France, comment ça se passe à l'étranger. Voilà. J'ai vraiment voulu être dans la clarté et dans la pédagogie, parce qu'on entend énormément de contre-vérités, et que je trouve que pour que le citoyen et le justiciable puissent se faire une idée, il faut qu'il ait accès à l'information. L'information, enfin le savoir, c'est du pouvoir. Voilà.
Vous avez souvent des clients qui viennent vous voir parce qu'ils ont eu recours à une GPA, par exemple, et qu'ils ont un problème pour la reconnaissance de leurs enfants ?
Alors, moi, je suis très sollicitée aussi bien sur les problématiques de PMA, mais aussi sur les divorces de couples homo, de couples de lesbiennes ou de couples de gays, et bien sûr sur les demandes des parents qui ont fondé une famille grâce à la GPA. Et donc, ils viennent avec une demande qui est très simple. Comment faire pour que l'acte de naissance de leur enfant, qui a été établi à l'étranger, puisse être reconnu en France ? Et là, par mon savoir et par mon savoir-faire, selon les situations, il y a des solutions juridiques qui sont différentes. Et avec eux, on examine laquelle est la plus pertinente. Et ensuite, j'initie des procédures qui aboutissent à la reconnaissance de ses enfants. Parce que c'est ça l'essentiel, en fait, dans le métier que je fais et ma manière de l'exercer, c'est vraiment permettre à ces enfants qui n'ont pas choisi d'être là, comme d'ailleurs nous-mêmes, nous n'avons pas choisi d'être là, et bien d'avoir une protection légale, une protection juridique dès la naissance, dès que cela est possible, y compris si les gens ont eu recours à des GPA à l'étranger, là où c'est légal. Parce que c'est peut-être pas possible en France, mais vous avez des pays comme le Royaume-Uni, la Grèce ou le Portugal, si je prends simplement les pays en Europe, qui ont légaliser la GPA, et ces pays ne se sont pas effondrés, et les femmes ne sont pas mises en esclavage dans ces pays. Donc, on a un discours en France qui est absolument ahurissant et fantasmatique, très éloigné de la réalité de ce que peut être la GPA dans des pays qui ont des références et des valeurs communes avec le nôtre.
Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes trans qui viennent vous voir ?
Il n'y a pas énormément de personnes trans qui viennent me voir. Il y en a quelques-uns, quelques-unes, ça dépend. En tout cas, bien sûr, j'initie des procédures de changement d'état civil. Mais en fait, les personnes trans, quand elles viennent me voir, elles viennent plutôt me voir généralement dans le cadre d'une procédure de divorce. Parce qu'il faut savoir que dans ces cas-là, la transition de la personne peut conduire vraiment à une espèce, entre guillemets, de radicalisation de l'épouse ou de l'époux, qui va à toute force vouloir empêcher que la personne trans puisse continuer à avoir les enfants, alors qu'avant la transition, il n'y avait pas de difficulté. Donc ça, c'est des dossiers qui sont des dossiers difficiles, qui sont des dossiers où il faut beaucoup batailler, et comme j'ai plutôt la réputation d'être quelqu'un qui sait batailler, qui va savoir porter j'allais dire haut et fort la défense de ces personnes, c'est plutôt dans ce contexte-là que des personnes trans viennent me solliciter. Et ce sont des dossiers qui sont extrêmement difficiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on doit lutter à la fois contre l'épouse ou l'époux, qui est vraiment parfois dans une radicalité féroce, et on doit aussi, entre guillemets, lutter, mais là je dirais plutôt, en fait, il faut essayer de trouver les mots pour convaincre le juge, qui n'a pas une bonne connaissance, en fait, de ce qu'est la transidentité. Et donc, on lutte contre cette perception qui peut être non pas négative, mais en tout cas, va avoir tendance à vouloir protéger l'enfant. Et à force de vouloir le protéger, il ne va pas forcément prendre les bonnes options. Du moins, il va prendre celles qu'il estime être les bonnes, mais qui en réalité peuvent être totalement contraires à l'intérêt de l'enfant. Rendre une décision dans laquelle on coupe l'enfant de son père trans ou de sa mère trans est en fait absolument opposé à l'intérêt de l'enfant. Il ne faut pas mentir aux enfants. Les enfants doivent pouvoir avoir accès à la vérité de l'histoire de leurs parents, y compris lorsque leurs parents sont en transition. Ça, c'est très important. Un enfant est capable de comprendre. Un enfant, c'est quelqu'un qu'on doit accompagner et non pas couper de son père ou de sa mère trans.
Caroline Mécari, est-ce que vous diriez qu'il y a une homophobie d'État aujourd'hui encore ?
Non, je ne dirais pas ça parce que, en fait, l'État français, la France, n'a pas institutionnalisé, comme on a pu le voir en Afrique du Sud, une ségrégation entre les hétérosexuels et les homosexuels. Mais en revanche, il existe des réglementations qui sont discriminatoires, comme par exemple le fait que la PMA ne soit ouverte qu'à des couples hétérosexuels. Mais c'est quelque chose qui est en train, enfin, qui va bouger. Donc, je ne pourrais pas le qualifier d'homophobie d'État aujourd'hui.
Vous êtes toujours sur Nova, on va marquer une petite pause musicale, allemande, disco, un peu vrillée, c'est Niemand de Compromat, le nouveau projet de Vitalik et de Rebecca Warrior. Rebecca, sache que tu es bienvenue dans cette émission.
Ich bin ein riesiger Berg. Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Wutbach, Wildbach, Bäche von meinen Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Stein unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Wutbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. 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 Niemand hört es, als ich schreie.
Dans le genre.
Dans le genre.
De.
Caroline Mécari, quel rapport entretenez-vous avec votre physique ?
Bon, j'entretiens, je crois, plutôt un bon rapport. Je sais pas trop quoi vous dire en fait. Ça va.
Vous êtes à l'aise avec vous-même.
Oui, je suis à l'aise avec moi-même. Voilà, exactement.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire ?
Je ne sais mettre qu'une seule chose en avant et en fait, en réalité, je mets rien en avant parce que je ne pense pas à la séduction. Je crois que j'utilise la parole et encore la parole.
Voilà. Est-ce que vous auriez aimé être un homme ?
Non, en fait, non. Non, non. Je suis très contente d'être une femme. Je voudrais juste que les femmes subissent moins de discrimination dans les faits. Je voudrais que les femmes aient vraiment la même reconnaissance que les hommes. Je voudrais que les femmes aient une visibilité aussi légitime, aussi évidente que pour les hommes. Voilà, c'est pas tant sur le plan du droit. Sur le plan du droit, en fait, les femmes et les hommes, aujourd'hui, en France, bien sûr, hein, ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais c'est beaucoup plus une question de perception. Je pense qu'il y a un mépris, pour ne pas dire une haine du féminin. C'est quelque chose qui, à la fois, me touche et que je trouve absolument révoltant et contre lequel j'essaye, en fait, de me battre à de mille et une manières, ne serait-ce qu'en étant présente, quand c'est possible, publiquement. Et puis j'encourage vraiment les jeunes femmes, les jeunes filles, vraiment à prendre la parole, à être visibles, à montrer qu'elles sont là, quoi. Elles ont énormément de qualités, autant que les garçons, et ça c'est vraiment quelque chose qui doit émerger, en fait.
Est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente de celle que vous êtes ?
En fait, J'aime bien ce que je suis. Je n'ai pas envie d'être différente. Si je répondais oui, ça voudrait dire que rien de ce que je fais ne m'a plu. Or, même si mon parcours est au fond un parcours singulier, mais comme tous les parcours, qu'il a nécessité des efforts, qu'il a nécessité un certain courage, je regrette rien de ce que j'ai fait, mais absolument rien. Et je continue, voilà. Je continue et je continuerai jusqu'à ma mort.
C'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée par Benoît Thuot. Si toutes ces questions vous intéressent, n'hésitez pas à suivre Caroline Mécari sur les réseaux sociaux, à la lire aussi. Elle sort donc ces jours-ci en Que sais-je très bien fait, PMA, GPA ou PUF. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité, l'acteur Nicolas Maury. D'ici là, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.